VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 8 septembre 2023. Un camp de l'armée malienne a été visé aujourd'hui par une attaque suicide à Gao.
Pour le moment, difficile de se prononcer sur le bilan. Mais c'est que si jusqu'à 15 heures passées, les tirs sont toujours entendus à l'intérieur du camp de Gao.
Yahya Ben Salah de la radio Congo nous donnera les détails sur l'attaque de Gao. Elle survient au lendemain d'une double attaque qui a fait au moins 64 morts dans le nord malien. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été écroués pour complot contre la sûreté de l'État. Au Gabon, le PDG, le parti d'Ali Bongo Ondimba, prend acte du coup d'État et remercie les militaires de donner toute sa liberté au président déchu. New Delhi accueille demain, samedi, un G20 divisé sur l'Ukraine et le climat. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Mali, un camp de l'armée a été visé par une attaque ce vendredi à Gao. Un confrère sur place a fait état d'explosion de 3 véhicules piégés à l'intérieur du camp qui ont été suivis d'échanges de tirs intenses. L'aéroport qui jouxte le camp a été fermé pour le moment. Aucun bilan n'est disponible. Idriss Fall a joint notre confrère Yahya Ben Salah, directeur de la radio au Kondo, à Gao.
Les 3 kamikazes qui ont pu franchir les barrières, les checkpoints du camp 1, du camp Firoun de Gao. Il est actuellement à 15h ici à Gao. On nous signale toujours des combats à l'intérieur même du camp, des tirs qui sont toujours entendus à l'intérieur du camp. Selon un communiqué de la DIRFA, les évaluations sont toujours en cours, mais pour le moment, difficile de se prononcer sur le bilan. Mais c'est que si jusqu'à 15h passées, les tirs sont toujours entendus à l'intérieur du camp de Gao. L'accès au camp est toujours bloqué à l'intérieur de la ville. C'est vraiment la panique générale. Et les autres camps, que ce soit le camp de la garde, le camp de la gendarmerie, le commissariat de police, la direction générale de la police, tout est bloqué. Les militaires sont déployés au niveau des grands camps, les autres camps, pour sécuriser ces camps-là aussi.
L'attaque a commencé quand ce matin? Apparemment, on parlait de 3 véhicules piégés.
L'attaque a commencé ce matin vers 6h, 7h moins. On parle de 3 véhicules piégés qui ont pu quand même franchir les barrières des militaires, qui ont pu quand même rentrer à l'intérieur. Mais est-ce que les 3 kamikazes ont pu se déclencher à l'intérieur du camp? Point d'interrogation. Quand même, il y a des infiltrés, selon les informations que nous avons reçues, qui sont à l'intérieur du camp, qui ont engagé le combat avec l'armée malienne et leurs partenaires, les instructeurs russes. L'aéroport est fermé depuis ce matin. Tous les vols sont annulés ou bien sont reportés jusqu'à une date ultérieure.
Notre confrère Yahya Ben Salah, directeur de la radio Kondo à Gao. Cette toute dernière attaque survient au lendemain d'une double attaque qui a fait au moins 64 morts dans la région de Tombouctou. Et nous allons y revenir. Nous allons revenir sur ces attaques dans la partie magazine. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été inculpés et placés en détention préventive pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. L'annonce a été faite par le parquet militaire qui rassure que des investigations se poursuivent pour élucider cette affaire. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
L'adjudant Wendeg Malek de Kabore, le sergent-chef Brice Ismaël Ramdé et l'ex-caporal Samida ont été inculpés et placés en détention préventive pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Le parquet affirme qu'ils ont tous reconnu les faits. Selon le parquet, tout est parti d'une dénonciation fin août des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires en intelligence procéderaient à l'identification de points sensibles et des domiciles dont celui du président de la transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition, indique le communiqué. Le parquet militaire a invité les populations à la collaboration et a rassuré que les enquêtes se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences, note le communiqué. Le 31 août dernier, le gouvernement burkinabé avait parlé de l'existence d'un projet de déstabilisation sans donner de détails. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Gabon, le PDG, le Parti démocratique gabonais, parti du président déchu, Ali Bongo Ondimba, dit avoir pris acte de la prise du pouvoir par les militaires et remercie les nouveaux maîtres de Libreville pour le traitement réservé à M. Bongo et s'est dit prêt à travailler pour le succès de la transition. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
La déclaration de l'ancien parti au pouvoir a été lue hier à Libreville par Luc Oyoubi, le secrétaire général adjoint du PDG.
Le Parti démocratique gabonais PDG a pris acte du changement de régime intervenu le mercredi 30 août 2023 par les forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, lequel a choisi unanimement le général de brigade Bisclotaire Oligui Nguema en qualité de président de la transition.
Le PDG dit féliciter le CTRI d'avoir évité au Gabon une douloureuse et sanglante épreuve aux conséquences incalculables. Luc Oyoubi a aussi remercié les nouvelles autorités pour le traitement réservé au président déchu. Le PDG se dit disponible pour accompagner la transition.
Le PDG soutiendra toutes les initiatives engagées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions visant à répondre aux préoccupations, besoins et attentes des populations gabonaises compatibles avec le contexte national et international.
En 55 ans, tout n'a pas été parfait, a reconnu Luc Oyoubi, qui a exhorté les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel, je cite, « dans des délais raisonnables ».
L'ex-directrice de cabinet du président malgache, Romi Andrianarisoa, a plaidé non coupable ce vendredi des accusations de corruption pour lesquelles elle est poursuivie et détenue au Royaume-Uni. Madame Andrianarisoa, 46 ans, avec un Français décrit comme un associé, Philippe Tabuto, 54 ans, sont soupçonnés d'exploitation, d'avoir demandé du moins des pots de vin pour l'attribution de licences d'exploitation du groupe, au groupe minier britannique Gemfield et en cours chacun jusqu'à 10 ans de prison. Le chef de la diplomatie marocaine a insisté aujourd'hui que toute solution politique au Sahara occidental devrait être basée exclusivement sur le plan marocain en recevant l'émissaire de l'ONU. Et puis, le syndicat national des journalistes tunisiens a dénoncé ce vendredi la mainmise des autorités sur les médias publics et un verrouillage de liberté. Cette censure méthodique est appliquée pour déprogrammer des émissions TV ou des articles sur des activités de l'opposition ou des ONG, a déploré le président du SNJT. Mehdi Djelassi, le SNJT, a dénoncé aussi l'intimidation des journalistes par des poursuites judiciaires et des interpellations purement politiques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G20 ont commencé à arriver à New Delhi. Le premier ministre Narendra Modi espère faire valoir l'influence diplomatique croissante de l'Inde et faciliter le dialogue sur l'Ukraine ou le réchauffement climatique. Le président américain Joe Biden occupe le devant de la scène en l'absence de ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Le point avec Eric Manirakiza.
Joe Biden et le premier ministre indien Narendra Modi ont vanté le partenariat solide et durable entre leurs deux pays après une rencontre fermée à la presse. Les deux dirigeants ont estimé, selon leur communiqué, que le sommet du G20 allait faire avancer les objectifs communs sur le plan économique, notamment en réformant profondément et en musclant les banques de développement multilatérales, ce qui est le grand objectif de Joe Biden à New Delhi. Les deux hommes ont aussi promis de poursuivre les chantiers lancés lors de la visite d'État de Narendra Modi en matière de technologie, d'industrie et de défense. Joe Biden a par ailleurs répété qu'il soutenait l'attribution à l'Inde d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Jeudi, M. Modi a réitéré son souhait d'élargir le bloc en G21 avec l'inclusion de l'Union africaine en tant que membre permanent.
Le monde n'est pas sur la bonne trajectoire pour freiner le réchauffement climatique, ont averti les Nations Unies ce vendredi à l'approche de négociations cruciales visant à endiguer la crise climatique. Le bilan mondial des Nations Unies sur les périls climatiques servira de base aux négociations de la COP28 qui se tiendront à Dubaï à la fin de l'année. Et aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux dirigeants du G20 qu'ils avaient le pouvoir de résoudre une crise climatique qui échappe à tout contrôle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu aujourd'hui que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne, se plaignant du ralentissement de l'aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou. Et puis, un an après la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, son accession au trône, le roi Charles III s'est recueilli et des tirs de canon ont retenti dans tout le Royaume-Uni pour marquer ce changement d'ère. Aucun événement public d'ampleur n'était prévu pour commémorer la disparition de la reine Elisabeth II à 96 ans le 8 septembre 2022. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Dani Kalani.
Au Niger, l'usine de la Somaïr, la filiale française d'Orano, a cessé sa production de concentré d'uranium en raison de l'amenuisement de ses stocks de produits chimiques du fait de la fermeture des frontières des pays voisins qui bloquent l'approvisionnement en produits réactifs. Elle a basculé en maintenance anticipée, initialement programmée pour début 2024, indique Orano, précisant que la mine est toujours en pleine activité et le travail de ses salariés et d'une partie de ses sous-traitants maintenu. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, entame dimanche une visite de 6 jours en Chine, quelques mois après la négociation d'un accord pour restructurer la dette colossale de la Zambie. Cette dette est évaluée à 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de la Chine. Pour terminer, les prix du riz dans le monde ont atteint en août leur plus haut niveau en 15 ans, augmentant de 9,8% sur un mois après les restrictions à l'exportation de riz blanc non basmati décidées par l'Inde, qui assure 40% du commerce mondial du riz, indique la FAO. L'Inde vend des quantités de brisures de riz à l'Afrique, notamment au Sénégal, au Nigeria, à la Côte d'Ivoire ou au Bénin.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite ce vendredi des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
Oui, déjà qualifié, le Burkina Faso affronte l'Eswatini out. Le Soudan du Sud éliminé n'a plus rien à espérer devant le Mali. La République centrafricaine ne jouera pas sa première CAN l'an prochain en Côte d'Ivoire. La faute au Ghana, les Black Stars, leaders de leur poule, avaient besoin d'un match nul pour se qualifier. Ils ont fait mieux en battant les fauves du Bazoubangui 2-1, se qualifiant ainsi donc pour la prochaine CAN. Dans l'autre rencontre de cette poule E, Madagascar et l'Angola se sont neutralisés 0-0, suffisant pour les Angolais qui accompagneront les Ghanéens à Abidjan.
Nicolas Pepe rejoint Trabzonspor.
L'attaquant international ivoirien, prêté par Arsenal à l'OGC Nice la saison dernière, a annoncé s'engager avec le club turc de Trabzonspor. « Je suis très heureux de rejoindre ce club », indique Nicolas Pepe dans une vidéo partagée sur le réseau social X par le club turc. Selon la presse turque, le joueur de 28 ans qui ne figurait plus dans les plans des Gunners va rester en Turquie jusqu'à la fin de la saison. L'international ivoirien, 37 sélections, 10 buts, a disputé 28 matchs et inscrit 8 buts avec Nice la saison passée. Il n'a toutefois pas réussi à s'y relancer, la faute surtout à une blessure récurrente à un genou.
On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de basketball.
L'Allemagne sera opposée à la Serbie. Les Serbes se sont qualifiés pour leur première finale du Mondial de basket depuis 2014, à l'issue d'une nouvelle démonstration collective contre le Canada, battu 86-95. Les Serbes affronteront dimanche, toujours à la Mall of Asia Arena, l'Allemagne. La Mannschaft s'est qualifiée pour la première finale d'un Mondial de son histoire, après avoir éliminé les États-Unis 113-111. Les champions olympiques américains en titre ont failli dans leur opération reconquête après leur sortie de route en quart de finale en 2019. Le meilleur résultat en Coupe du Monde pour l'Allemagne est une troisième place acquise en 2002, troisième de l'Euro 2022. Elle est la seule équipe invaincue de ce mondial.
Tennis avec la finale demain du tournoi de l'US Open.
La Bélarusse Arina Zabalenka fera face à l'Américaine Coco Gauff. Zabalenka début 13, bien son règne de numéro 1 mondial avec un titre à l'US Open, mais devant son public surchauffé, la pépite américaine entend décrocher samedi son premier titre du Grand Chelem. Elle deviendrait ainsi la plus jeune américaine à remporter son major national, depuis Serena Williams en 1999. Mais à 25 ans, la Bélarusse espère terminer la saison des Grands Chelems comme elle a commencé par un titre à New York après son tout premier majeur, l'Open d'Australie, remporté en janvier dernier.
Page des sports VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. 49 civils tués, 15 militaires morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'attaque qui a visé le bateau Tombouctou qui revenait de Gao ce jeudi. Au même moment, le camp militaire de Bamba, dans le cercle de Bourem, a été attaqué. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le récit des événements avec notre correspondant à Tombouctou, Alouseni Aladji.
C'est l'attaque la plus meurtrière sur un navire transportant des civils et des militaires. Le bateau Tombouctou quittait Gao pour Tombouctou lorsqu'il a été l'objet d'attaques des hommes en armes. Au même moment, le camp de la ville de Bamba, dans le cercle de Bourem, a été attaqué lorsque les éléments de ce camp partaient en renfort aux camarades qui assuraient la sécurité du bateau. Soumaïla Ibrahim Meiga est journaliste dans la ville de Bourem, dont dépend Bamba.
L'attaque est survenue aux environs de 14 heures passées, alors qu'une grande partie des militaires qui occupaient le camp étaient sortis pour porter secours au bateau Tombouctou qui a été attaqué vers Zorhoui entre Bamba et Gourmararous.
Le bateau qui était perçu comme le moyen le plus sûr pour voyager est désormais devenu un cauchemar pour tous ceux qui aspiraient voyager en toute tranquillité. Fatouma Harber, membre de la société civile de Tombouctou.
Clairement, à Tombouctou, le bateau paraissait et permettait vraiment à la majorité des Tomboxiens à un prix abordable de pouvoir rejoindre des localités très reculées qui étaient carrément coupées du monde et les pistes qui existent sont inondées. Et si le bateau fait l'objet d'attaques perpétuelles, on peut le dire maintenant parce que c'est la 4e fois que le bateau est attaqué, ça fait vraiment peur.
Le bateau Tombouctou, fortement endommagé, est désormais immobilisé. Le bateau Kankoumoussa, qui partait dans l'autre sens, a rebroussé chemin afin d'éviter la zone de l'attaque. Jusqu'à une date récente, les attaques ciblaient uniquement les forces de défense et de sécurité. Les civils comme cible fait dire à Youssouf Cissé, habitant à Tombouctou, qu'il faut vite agir pour éviter le pire.
Comment se fait-il que l'on s'en prenne à des civils? Quand on parle de guerre, la population civile ne fait pas partie de la guerre. Les populations désarmées ne font pas partie de la guerre. Pour ce qui est du blocus sur Tombouctou, des interventions doivent être faites par les autorités, peut-être aussi par les légitimités traditionnelles, les légitimités religieuses.
Le dialogue est la seule issue pour laquelle il faut désormais opter, selon Fatouma Harber.
La meilleure des choses à faire, c'est de parler avec ces personnes-là qui ont décrété ce blocus-là, savoir quel est le problème et comment y mettre fin. C'est vraiment la seule tour de contrôle, à mon avis.
Pour rappel, depuis la rétrocession des camps MINUSMA de Ber et de Goundam aux forces armées maliennes, les groupes armés multiplient les attaques sur elles et sur les civils. Un blocus qui s'est imposé sur certains axes routiers de la région de Tombouctou depuis 3 semaines. Pour VOA Afrique, Alhousseini Alhadji, depuis Tombouctou.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, la question de la liberté de la presse inquiète les acteurs. La dernière restriction en date a été la suspension de la radio Omega. Les journalistes et professionnels des médias disent ne pas pouvoir faire leur travail dans la sérénité. Mais d'autres observateurs estiment qu'en temps de guerre, les médias doivent pouvoir s'adapter. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici, nous sommes au journal Les Reporters, un bimensuel d'investigation. Ce journaliste a déjà fait l'objet de menaces. Une propagande orchestrée sur les réseaux sociaux pour salir sa réputation.
On a pratiquement l'impression que chaque jour qui passe, c'est avec son lot de musellement, d'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse en particulier. Qu'est-ce que les médias représentent devant la justice? Or, vous êtes témoin que les militaires ont fait une descente dans une enceinte juridictionnelle au niveau du tribunal Ouaga 2 pour libérer de force une personne présumée qui était sous mandat de dépôt.
Cet enseignant en journalisme pense aussi que la liberté de la presse se détériore au Burkina Faso.
Je pense qu'il y a une cabale, si je puisse le dire ainsi, contre les médias. Mais ce n'est pas seulement contre les médias, c'est aussi contre les journalistes. Parce que là, on vient de finir pour le compte du Centre national Norbert Zorro une étude sur la liberté de la presse au Burkina Faso. Et on s'est rendu compte que le discours politique s'est beaucoup radicalisé vis-à-vis des journalistes. Et la première victime dans une situation où on veut une sorte de pensée unique et de critique un peu flicto, même pas de critique, on veut un accompagnement sans réserve. La presse est la première victime parce que la presse, par essence, elle est critique, elle est analyse.
C'est le obligatoire. Mais tous les observateurs et analystes ne sont pas du même avis.
Voilà, on va commencer peut-être dans les discussions.
Ce qui est posé comme problématique essentiellement, en tout cas actuellement, c'est quelle presse dans une période de guerre. Est-ce qu'elle doit être contrainte, donc s'adapter à la situation, ou bien elle doit s'en défaire ou elle peut s'en défaire. Les pays d'où sont originaires la forme de journaliste que nous pratiquons le montrent au jour le jour que, en fonction des intérêts que les gouvernants auraient identifiés comme vitaux pour la nation, sans état d'âme, on coupe les médias, on enferme. Voilà, et nous ne pouvons pas être au-dessus. Maintenant, il nous appartient de juger de l'opportunité de chaque action.
Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir fin janvier 2022, les médias ont une marge de liberté restreinte. Les médias français, RFI et France 24 ont été suspendus. Les journalistes des journaux français, Le Monde et Libération ont été expulsés. Et dernièrement, la radio Omega, une station locale, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Une Mauritanienne en première ligne dans la lutte contre les conflits communautaires au Sahel, Diaba se consacre à promouvoir la participation des femmes aux côtés des hommes à la prévention et à la résolution des conflits dans la région. Elle occupe le poste de coordinatrice régionale au sein de la plateforme des femmes du G5 Sahel, une organisation œuvrant pour l'intégration de la perspective de genre dans les stratégies et les initiatives de cette organisation régionale. Découvrez son portrait avec Mohamed Diop.
Madame Dieba, l'une des quatre premières Mauritaniennes à obtenir le baccalauréat. Elle est aussi la première Mauritanienne qui poursuit des études supérieures à l'étranger en France. De retour au pays, cette diplômée en histoire devient ministre de la Santé, puis députée. Aujourd'hui, elle coordonne la plateforme des femmes du G5 Sahel qui implique le genre dans la médiation communautaire.
Elles sentent les tensions qui naissent parce qu'elles viennent souvent d'un groupe. Elles sont mariées dans un autre groupe ou leurs enfants sont dans d'autres groupes ou proviennent d'autres groupes. Donc, elles ont une vue d'ensemble de ce qui se passe dans leur communauté.
Les femmes de la plateforme arrivent d'ailleurs à résoudre des conflits comme ceux opposant souvent cultivateurs et éleveurs en Mauritanie.
Elles ont même eu l'intelligence de créer des activités qui, après le règlement de conflit, permet aux gens de rester ensemble, de se côtoyer et de travailler ensemble.
Et au Niger aussi, dans la région de Tillaberi, on a eu des activités avec des femmes qui ont géré le problème des personnes déplacées et les personnes qu'elles ont trouvées sur place.
Grâce à son action, les hommes reconnaissent le rôle de la femme dans le règlement des conflits au Sahel.
Maintenant que les hommes, les gouvernements, la société civile sont interpellés par exemple la résolution 1325 des Nations Unies et qu'ils se rendent compte qu'ils s'astreignent à l'appliquer, donc à faire participer les femmes, ils se rendent compte que les femmes peuvent apporter quelque chose de nouveau.
Cependant, la source d'inspiration de Madame Ba est sa maman.
On l'a vu gérer les petits conflits de ménage. On l'a vu organiser les femmes en de petites, GIE aujourd'hui, on peut parler de GIE aujourd'hui, en des petites communautés de pratique pour les teinturières ensemble ou les commerçantes ensemble.
Ses collègues parlent de femmes attachée au genre.
Madame Guié, grâce aux offensives qu'elle a menées, vraiment nous avons pu nous intégrer au niveau de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, le plan d'action national de la résolution 1325 est en train d'être mis en œuvre.
Madame Diéba, c'est une femme qui a un long parcours et elle a un engagement inconditionnel pour la cause des femmes. Elle a réussi à avoir, à instaurer une confiance entre elle et les femmes du Sahel, ce qui a permis donc de créer des cadres de concertation et d'échange avec ces femmes pour rechercher les vrais problèmes du Sahel, les vrais problèmes qui causent justement ces conflits armés qui ont un impact, des conséquences néfastes sur aussi bien la société de manière, les communautés de manière générale que les femmes en particulier.
Pour le futur, Diéba dit rester à la disposition de son pays, du Sahel et de l'Afrique. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Nous parlons à présent du noble art pratiqué par une dame aux ambitions olympiques, le poids welter Sedia Sanogo, dont les parents sont d'origine ivoirienne, a grandi à 20 minutes en voiture de la reine qui accueillera le tournoi de boxe des Jeux Olympiques Paris 2024, mais elle a choisi de poursuivre son rêve olympique sous le drapeau de la Côte d'Ivoire, le pays de ses parents. Yacouba Ouedraogo.
Et en fait, j'ai vu les Jeux Olympiques de Rio, c'était en 2016, et j'ai vu pas mal de pays, d'ailleurs il y avait mes coéquipières de l'équipe de France qui y étaient et tout, et il n'y avait pas la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, mais on est où enfin...
C'est de ce choc qu'est née la volonté de la poids Walter Sedia Sanogo de combattre pour le pays d'origine de ses parents qui ont immigré en France avant sa naissance. Il l'avait inscrite à des cours de boxe à l'âge de 13 ans pour qu'elle apprenne à se défendre dans une banlieue parisienne difficile, multiethnique et densément peuplée, Seine-Saint-Denis.
Mes parents, à un moment, quand ils nous mettaient à la boxe, c'était plus... Ils ont ce truc de se dire, bah, comme ça, tu vas apprendre à te défendre.
Alimata Sanogo, mère de Sedia Sanogo.
Tout le temps, les gens, ils viennent. Ah, Sedia, il a frappé mon fils. J'ai dit, bah, il faut dire à ton fils qu'il se défend. Je vais dire quoi? Donc, j'ai dit, bon, il faut continuer de faire la boxe.
Maintenant qu'elle avait gagné en confiance, Sedia n'allait plus s'arrêter et elle va enchaîner avec les compétitions. Après avoir remporté plusieurs titres de championne de France à l'adolescence, avant de faire une pause de plus de 10 ans, la jeune dame de 33 ans a décidé en 2020 de relancer sa carrière. Mais elle a choisi de boxer sous le drapeau de la Côte d'Ivoire. Son objectif, briser certains clichés autour de cette discipline, beaucoup plus pratiquée par les hommes.
Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir cette binationalité. Mais je me dis qu'il y en a plein qui doivent se cacher et qui ne peuvent pas le faire parce que justement, on est fermé. Et je me dis, ben, voilà ce que je gagne derrière.
Issouf Sanogo, père de Sedia Sanogo.
Quand elle a parlé, j'ai dit, si tu peux boxer pour la Côte d'Ivoire, je vais bien, c'est un honneur pour moi. Et en plus, c'est aussi un bonheur pour toi et la famille d'Ayantier.
Aujourd'hui, Sanogo est la capitaine de la première équipe féminine de boxe olympique de Côte d'Ivoire. Elle s'entraîne durement en vue du tournoi de qualification olympique pour l'Afrique qui va se dérouler ce mois de septembre à Dakar, au Sénégal. 11 femmes et seulement 2 dans sa catégorie peuvent gagner leur billet pour Paris. Le coach de Sedia Sanogo, Abadila Alab, y croit.
L'espoir, c'est obligatoire, autrement on ne serait pas là aujourd'hui. Bien sûr, on y croit. Et en tout cas, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir remporter tous nos combats qui nous mèneront à Paris 2024.
Un espoir partagé jusqu'au bord de la lagune ébriée, autorité ivoirienne en charge de la boxe nationale. Arthur Bois, président de la Fédération ivoirienne de boxe.
J'attends d'elle la médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Et ça sera une grande première. Et ça, je suis fier parce que elle crée les prédispositions. Voilà, pour aller décrocher la médaille.
En attendant, le président de la Fédération ivoirienne de boxe se dit déjà fier de Sedia Sanogo, grâce à qui la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une équipe féminine de boxe.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.